Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble pour nos lectures en liberté et la suite du roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent. Il y a une heure que j'attends ici, reprit l'inconnu, tandis que je continuais de le dévisager. Et pendant ce temps, tout autour de moi est resté calme, comme la mort. Je n'ai pas osé entrer. Vous ne me reconnaissez pas ? Regardez-moi, je ne suis pas un étranger. Un rayon de lune tomba sur son visage. Les joues étaient blêmes, à moitié cachées sous des moustaches noires, les sourcils tombants, les yeux profondément enfoncés et très caractéristiques. Je me rappelais ses yeux. « Quoi ? » m'écriai-je, me demandant si je devais le regarder comme un visiteur de ce monde. Et stupéfaite, je levai les bras au ciel. « Quoi ? Vous ? Revenu ? Est-ce vraiment vous ? Est-ce vous ? Oui, moi, Heathcliff, répondit-il en tournant le regard vers les fenêtres qui reflétaient une vingtaine de lunes éclatantes, mais sans révéler aucune lumière à l'intérieur. Sont-ils à la maison ? Où est-elle, Nelly ? Vous n'êtes pas contente ? Il n'y a pas de quoi être si troublé. Est-elle ici ? Parlez. J'ai besoin de lui dire un mot, à elle, à votre maîtresse. Allez lui dire que quelqu'un de Gimmerton désire la voir. Mais comment va-t-elle prendre la chose ? Que va-t-elle faire ? La surprise qui m'égare va la rendre folle. Ainsi, vous êtes bien Heathcliff. Mais si changé ? Non ? C'est à n'y rien comprendre. Avez-vous servi dans l'armée ? Allez faire ma commission, interrompit-il avec impatience. Je serai en enfer tant que vous ne l'aurez pas faite. Il souleva le loquet et j'entrai. Mais quand j'arrivai devant le petit salon où se tenaient monsieur et madame Linton, je ne pus me résoudre à aller plus loin. Enfin, je me décidai à prendre un prétexte en leur demandant s'ils ne voulaient pas que j'allumasse les bougies, et j'ouvris la porte. Ils étaient assis près de la fenêtre dont les volets étaient rejetés contre le mur, et par laquelle on apercevait, au-delà des arbres du jardin et du parc sauvage et verdoyant, la vallée de Gimmerton avec une longue traînée de brouillard qui montait en tournoyant presque jusqu'à son sommet. Car immédiatement après avoir passé la chapelle, comme vous avez pu le remarquer, le canal qui sert d'écoulement au marais se réunit à un ruisseau qui suit la courbe du vallon. Les Hauts de Hurlevent s'élevaient au-dessus de cette vapeur argentée. Mais notre vieille maison était invisible. C'est au flanc de l'autre versant qu'elle s'accroche. La pièce et ses occupants, comme la scène qu'ils contemplaient, respiraient la paix la plus complète. J'éprouvais une vive répugnance à m'acquitter de ma mission, et j'étais sur le point de sortir sans l'avoir remplie après avoir fait ma question au sujet des bougies, quand le sentiment de ma folie me poussa à revenir sur mes pas et à murmurer « Quelqu'un de Gimmerton désire vous voir, madame. » « Que veut-il ? » demanda madame Linton. Je ne l'ai pas questionné. Bien, fermez le rideau, Nelly, et apportez le thé. Je reviens dans un instant. Elle quitta le salon. Monsieur Edgar demanda d'un ton insouciant qui c'était. Quelqu'un que madame n'attend pas, répondis-je. C'est ce Heathcliff. Vous vous le rappelez, monsieur, qui habitait chez monsieur Earnshaw. Quoi ? Le bohémien ? Le garçon de charrue ? S'écria-t-il. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Catherine ? Chut ! Il ne faut pas lui donner ces noms-là, maître. Elle serait très peinée si elle vous entendait. Son cœur s'est presque brisé quand il s'est enfui. Je suis sûr que son retour sera une fête pour elle. Monsieur Linton se dirigea vers une fenêtre donnant sur la cour à l'autre bout de la pièce. Il l'ouvrit et se pencha dehors. Je suppose qu'ils étaient en dessous, car il s'écria vivement « Ne restez pas là, mon amour, faites entrer le visiteur, si c'est un intime !» Bientôt, j'entendis le bruit du loquet et Catherine monta en courant, arrivant essoufflée, effarée, trop excitée pour laisser paraître sa joie. À sa figure, on aurait même plutôt supposé qu'une terrible calamité venait de se produire. « Oh, Edgar ! Edgar ! » s'écria-t-elle haletante. Et se jetant à son cou, « Oh, Edgar, mon chéri, Heathcliff est revenu, il est là !» Et elle le serrait dans ses bras, à l'étouffer. « Bon, bon, dit son mari avec humeur, ce n'est pas une raison pour m'étrangler. Il ne m'a jamais fait l'impression d'un trésor si merveilleux. Il n'y a pas de lieu de vous affoler. » « Moi, je sais que vous ne l'aimiez pas, » répondit-elle en modérant un peu son ravissement. « Pourtant, par égard pour moi, vous devez être amis maintenant. Faut-il lui dire de monter ?»« Ici, dans le petit salon ? Et où donc ?» Il avait l'air contrarié et laissa entendre que la cuisine était un endroit qui conviendrait mieux aux visiteurs. Madame Linton le regarda d'une drôle de manière, moitié fâchée, moitié riant de sa susceptibilité. « Non, ajouta-t-elle au bout d'un instant, je ne peux pas le recevoir dans la cuisine. Mettez deux tables ici, Hélène, l'une pour votre maître et pour Miss Isabelle, qui sont l'aristocratie, l'autre pour Heathcliff et pour moi, qui sommes les classes inférieures. Cela vous va-t-il ainsi, cher ? Ou faut-il que je fasse allumer du feu ailleurs ? Dans ce cas, donnez vos instructions, je descends vite m'assurer de mon hôte. J'ai peur que ma joie soit trop grande pour être fondée sur quelque chose de réel. » Elle allait de nouveau se précipiter dehors, mais Edgar l'arrêta. « Priez-le de monter, » dit-il en s'adressant à moi. « Et vous, Catherine, tâchez d'être contente, sans être absurde. Il est inutile que toute la maison vous voie accueillir comme un frère, un domestique qui s'est sauvé. » Je descendis et trouvai Heathcliff, qui attendait sous le porche, content évidemment qu'il serait invité à entrer. Il me suivit sans paroles inutiles, et je l'introduisis en présence de mon maître et de ma maîtresse, dont les joues enflammées révélaient qu'il venait d'avoir un entretien animé. Mais ce fut un autre sentiment qui brilla sur le visage de la jeune femme quand son amie apparut à la porte. Elle s'élança vers lui, le prit par les deux mains et le conduisit vers Linton. Puis elle saisit les mains de Linton et malgré lui le força de prendre celle de Heathcliff. À présent que le feu et les bougies éclairaient en plein celui-ci, j'étais encore plus stupéfaite de sa transformation que je ne l'avais été tout d'abord. C'était maintenant un homme de grande stature, bien bâti, taillé en athlète, auprès duquel mon maître paraissait grêle et avait l'air d'un adolescent. Sa façon de se tenir droit suggérait l'idée qu'il avait été dans l'armée. L'expression et la décision de ses traits lui composait un visage plus vieux que celui de M. Linton et qui respirait l'intelligence sans conserver trace de sa dégradation passée. Pourtant, sous ses sourcils abaissés et dans ses yeux pleins d'un feu sombre, se dissimulait une férocité à demi sauvage, mais maîtrisée. Ses manières étaient même dignes, tout à fait dépourvues de rudesse, bien que trop sévères pour être gracieuses. La surprise de mon maître égala ou dépassa la mienne. Il resta une minute à se demander comment il s'adresserait au garçon de charrue, comme il l'appelait. Heathcliff lâcha sa main délicate et le regarda froidement jusqu'à ce qu'il se décida à parler. « Asseyez-vous, monsieur, » dit-il enfin. « Madame Linton, en souvenir du temps jadis, a désiré que je vous fisse un accueil cordial, et naturellement je suis heureux de tout ce qui peut lui être agréable. » « Et moi aussi, » répondit Heathcliff, « particulièrement si c'est quelque chose où j'ai une part, je resterai volontiers une heure ou deux. » Il s'assit en face de Catherine qui tenait les yeux fixés sur lui. Elle semblait craindre qu'il ne disparût si elle les détournait un instant. Lui ne leva pas souvent les yeux sur elle. Un rapide regard de temps à autre suffisait, mais ce regard reflétait chaque fois avec plus d'assurance le délice dissimulé qu'il buvait dans le sien. Ils étaient trop absorbés dans leur joie mutuelle pour se sentir embarrassés. Il n'en était pas de même de M. Edgar. Il pâlissait de contrariété. Ce sentiment atteignit le comble quand sa femme se leva et, s'approchant de Heathcliff, lui saisit de nouveau les mains en riant d'un air égaré. « Demain, je m'imaginerai avoir rêvé, » s'écria-t-elle. « Je ne pourrai pas croire que je vous ai vu, que je vous ai touché, que je vous ai parlé encore une fois. » Et pourtant, cruel Heathcliff, vous ne méritez pas cet accueil. Restez 3 ans absent sans donner signe de vie et sans jamais penser à moi. Un peu plus que vous n'avez pensé à moi, murmura-t-il. J'ai appris votre mariage, Cathy, il n'y a pas longtemps. Pendant que j'attendais en bas dans la cour, je méditais ce projet. Entrevoir simplement votre visage, recevoir en retour un regard de surprise peut-être et de plaisir affecté, puis régler mon compte avec Hindley et enfin prévenir la loi en me faisant justice moi-même. Votre accueil m'a fait sortir ces idées de l'esprit. Mais prenez garde de ne pas me recevoir d'un autre air la prochaine fois. Non, vous ne me chasserez plus. Vous étiez réellement inquiète de moi, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait de quoi. J'ai mené un dur combat dans la vie depuis le jour où j'ai cessé d'entendre votre voix. Il faut me pardonner car c'est uniquement pour vous que je luttais. Catherine, si vous ne voulez pas que notre thé soit froid, venez à table, je vous prie, interrompit Linton en s'efforçant de conserver son ton habituel et un degré convenable de politesse. Monsieur Heathcliff a une longue course devant lui, quel que soit l'endroit où il loge cette nuit. Quant à moi, j'ai soif. Elle prit sa place devant la théière. Miss Isabelle arriva, appelée par la cloche. Alors, après avoir avancé les chaises, je sortis. Le repas dura à peine 10 minutes. La tasse de Catherine resta vide. Elle était incapable de manger ou de boire.
She's gone. And it's quiet now. Took her mother with her. Left town. Took her mother's eye. Stole her mother's heart. It's a compromise. We now share that part and she's gone. Says she can walk now. Says she can walk now. Think she can walk. talking. She totters and falls, and when I'm not looking, leans onto the wall and she'll hold on to me. Only when she wants and she'll fall and be up again. It's part of the fun, but she's gone. Think she can walk now. Think she can walk now. Think she can walk. And it's quiet now. Took her mother with her, left town. Took her mother's eye, stole her mother's heart. It's a compromise. We now share that part and she's gone. And it's quiet now. Took her mother with her, left town.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Les Hauts de Hurlevent, Émilie Brontë. Edgar avait renversé son thé dans sa soucoupe et avala à peine une bouchée. Leur hôte ne prolongea pas son séjour ce soir-là plus d'une heure. Je lui demandai quand il partit s'il allait à Gimmerton. Non, à Hurlevent, répondit-il. Monsieur Earnshaw m'a invité lorsque je lui ai fait visite ce matin. Monsieur Earnshaw l'avait invité, lui, et il avait fait visite, lui, à monsieur Earnshaw. Je méditais cette phrase avec inquiétude après son départ. Commencerait-il à être un peu hypocrite? Et revient-il dans le pays pour y tramer le mal sous un masque? J'avais au fond du cœur le pressentiment qu'il aurait mieux valu qu'il n'eût pas reparu. Vers le milieu de la nuit, mon premier sommeil fut interrompu par Madame Linton qui se glissait dans ma chambre, s'asseyait à mon chevet et me tirait par les cheveux pour me réveiller. « Je ne puis pas dormir, Hélène » commença-t-elle en manière d'excuse « et j'ai besoin d'une créature vivante » pour me tenir compagnie dans mon bonheur. Edgar est grognon parce que je suis heureuse d'une chose qui ne l'intéresse pas. Il refuse d'ouvrir la bouche, sauf pour tenir des propos maussades et absurdes. Il m'a affirmé que j'étais cruelle et égoïste de vouloir le faire parler alors qu'il est souffrant et qu'il a sommeil. Il trouve toujours moyen d'être souffrant à la moindre contrariété. Je prononçai quelques phrases élogieuses pour Heathcliff et, sous l'influence de la migraine ou d'un accès d'envie, il s'est mis à pleurer. Je me suis levé et je l'ai laissé. D'à quoi bon lui faire l'éloge de Heathcliff, répondis-je. Enfant, ils avaient de l'aversion l'un pour l'autre. Et il serait tout aussi désagréable à Heathcliff d'entendre chanter les louanges de votre mari. C'est la nature humaine. Ne parlez pas de lui à M. Linton si vous ne voulez pas faire naître entre eux une querelle ouverte. Mais n'est-ce pas faire preuve d'une grande faiblesse? Je ne suis pas envieuse. Je ne me suis jamais sentie blessée par le lustre des cheveux blonds d'Isabelle, ni par la blancheur de sa peau, ni par son élégance recherchée, ni par la prédilection que tout le monde ici lui témoigne. Vous-même, Nelly, s'il y a parfois une dispute entre elle et moi, vous prenez aussitôt son parti. Et je cède, comme une mère trop faible, je l'appelle ma chérie et la flatte pour lui rendre sa bonne humeur. » Cela faisait plaisir à son frère de nous voir en bons termes et à moi par conséquent. Mais ils se ressemblent beaucoup, ce sont des enfants gâtés qui se figurent que le monde a été fait pour eux. Quoique je sois indulgente à tous deux, je pense qu'un bon châtiment pourrait néanmoins leur faire du bien. Vous vous trompez, Madame Linton. Ce sont eux qui sont indulgents pour vous. Je sais ce qui arriverait s'ils ne l'étaient pas. Vous pouvez bien leur passer leurs petits caprices tant que leur préoccupation est de prévenir tous vos désirs. Mais il se peut qu'à la fin vous vous heurtiez à propos de quelque chose qui soit d'égale conséquence pour les deux parties, et alors ceux que vous appelez faibles seront très capables de se montrer aussi obstinés que vous. Et alors nous lutterons à mort, n'est-ce pas, Nelly ? Répliqua-t-elle en riant. Non, je vous le dis, j'ai une telle foi dans l'amour de Linton que je crois que je pourrais essayer de le tuer sans qu'il eût le désir de se venger. Je lui conseillais de ne l'estimer que davantage pour l'affection qu'il lui témoignait. Mais c'est ce que je fais, répondit-elle. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il pleurniche à propos de bagatelles, c'est puéril. Au lieu de fondre en larmes parce que j'ai dit que Heathcliff était maintenant digne de la considération de tous et que ce serait un honneur pour le premier gentleman du pays d'être son ami, il aurait dû le dire à ma place et se réjouir par sympathie. Il faut qu'il s'habitue à lui, et il peut même lui être reconnaissant. Si l'on considère toutes les raisons qu'a Heathcliff de lui en vouloir, je trouve que Heathcliff s'est parfaitement conduit. « Et que pensez-vous de sa visite à Hurlevent ? » demandai-je. Il se serait donc amendé à tous égards. Le voici tout à fait chrétien. Il tend cordialement la main à tous ses ennemis à la ronde. Il m'a expliqué cette visite. Je m'en étonne autant que vous. Il m'a dit qu'il y était allé là-bas pour avoir par vous de mes nouvelles, supposant que vous y résidiez toujours. » Joseph avertit Hindley, qui sortit et se mit à le questionner sur ce qu'il avait fait, la manière dont il avait vécu, et finalement le pria d'entrer. Il y avait là plusieurs personnes qui jouaient aux cartes et Heathcliff se joignit à elles. Mon frère perdit quelque argent contre lui et, le trouvant abondamment pourvu, l'invita à revenir dans la soirée. Il y consentit. Hindley est trop insouciant pour choisir ses relations. Il ne prend pas la peine de songer aux raisons qu'il pourrait avoir de se méfier d'un homme qu'il a indignement outragé. Mais Heathcliff affirme que son principal motif pour renouer connaissance avec son ancien persécuteur est son désir de s'installer dans le voisinage de la grange, ainsi que son attachement à la demeure où nous avons vécu ensemble. Et aussi l'espoir que j'aurais plus l'occasion de le voir là que je n'en aurais eu s'il s'était fixé à Gimmerton. Il a l'intention de se montrer large pour obtenir l'autorisation de loger à Hurlevent. Et sans doute la cupidité de mon frère le déterminera à accepter ces conditions. Il a toujours été avide, mais ce qu'il attrape d'une main, il le gaspille de l'autre. Bon, « c'est un joli endroit comme installation pour un jeune homme, remarquai-je. Ne craignez-vous pas les conséquences possibles, Madame Linton ?» Pas pour mon ami. Sa forte tête le préservera du danger. Pour Hindley, un peu. Mais moralement, il ne peut tomber plus bas qu'il n'est, et je suis là pour le protéger du mal physique. L'événement de cette soirée m'a réconcilié avec Dieu et l'humanité. J'en étais arrivé à la colère et à la rébellion contre la Providence. Oh ! J'ai enduré une souffrance très, très amère, Nelly. Si cet homme s'en doutait, il aurait honte de gâter par son irritation absurde le soulagement que j'éprouve. C'est par bonté pour lui que j'ai été amené à supporter seul ma douleur. Si j'avais laissé paraître l'angoisse que je ressentais souvent, il aurait bien vite désiré aussi ardemment que moi de le voir allégé. Quoi qu'il en soit, c'est fini, et je ne veux pas me venger de sa folie. Désormais, je puis braver toutes les épreuves. Si l'être le plus vil me frappait sur une joue, non seulement je tendrais l'autre, mais je demanderais pardon de l'avoir provoqué. Et pour preuve, je vais faire tout de suite ma paix avec Edgar. Bonsoir, je suis un ange. C'est dans cette plaisante conviction qu'elle me quitta, et le succès de la mise en pratique de sa résolution fut évident dès le lendemain. Non seulement M. Linton avait renoncé à sa maussaderie, bien que son moral parût toujours subjugué par l'exubérante vivacité de Catherine, mais il ne hasarda même aucune objection à ce qu'elle emmena Isabelle à Hurlevent avec elle l'après-midi. Elle l'en récompensa par un été de douceur et d'affection qui fit de la maison un paradis pour plusieurs jours, maître et serviteur profitant ensemble de ce perpétuel éclat du soleil. Heathcliff, Monsieur Heathcliff, devrais-je dire à l'avenir, n'usa qu'avec circonspection au début de la liberté de venir à Thrushcross. Il semblait étudier jusqu'à quel point le maître supporterait son intrusion. Catherine, elle aussi, estima à propos de modérer en le recevant l'expression de son plaisir. Peu à peu, il établit son droit à être attendu. Il conservait beaucoup de la réserve qui le caractérisait dans son adolescence, et cela lui permettait de réprimer toute démonstration trop vive de sentiments. L'inquiétude de mon maître se calma, et d'autres événements vinrent la détourner pour quelque temps dans une autre direction. Des soucis nouveaux et imprévus fondirent sur lui. Isabelle Linton laissa malheureusement paraître un penchant soudain et irrésistible pour l'hôte qu'il tolérait. C'était à cette époque une charmante jeune fille de 18 ans, enfantine dans ses manières, bien qu'ayant un esprit fin, des sentiments ardents et un caractère vif dès qu'on l'irritait. Son frère, qui l'aimait tendrement, fut consterné de cette fantasque inclination. Sans parler de ce qu'aurait eu de dégradant une alliance avec un homme sans nom, ni de la possibilité que sa fortune, à défaut d'héritier mâle, passât aux mains d'un tel individu, il était assez sensé pour comprendre le tempérament de Heathcliff. Et savoir que si son extérieur s'était modifié, sa nature ne pouvait pas changer et n'avait pas changé. Il redoutait cette nature, elle le révoltait, il reculait, comme sous l'empire d'un pressentiment devant l'idée de confier Isabelle à sa garde. Sa répulsion eût été bien plus vive encore s'il avait su que l'attachement de sa sœur était né sans avoir été sollicité et n'éveillait chez celui qui en était l'objet aucune réciprocité de sentiment. Car à l'instant qu'Edgar en avait découvert l'existence, il l'avait incriminé comme un dessein prémédité de Heathcliff. Nous avions tous remarqué depuis quelque temps que Miss Linton se tourmentait et soupirait après quelque chose. Elle devenait maussade et fatigante. Elle brusquait et taquinait continuellement Catherine au risque qui était imminent de lasser la patience limitée de celle-ci. Nous l'excusions jusqu'à un certain point à cause de sa mauvaise santé. Elle languissait et dépérissait à vue d'œil. Un jour, cependant, elle s'était montrée particulièrement désagréable. Elle avait refusé son déjeuner, s'était plainte que les domestiques ne lui obéissent point, que Catherine ne lui permit d'être rien dans la maison, qu'Edgar la négligea, qu'elle eût pris froid parce que les portes étaient restées ouvertes, qu'on eût laissé éteindre le feu du petit salon exprès pour la contrarier, avec cent autres accusations encore plus frivoles. Madame Linton insista d'un ton péremptoire pour qu'elle se mît au lit. Et après l'avoir sérieusement tensée, elle menaça d'envoyer chercher le docteur. Au nom de Kenneth, Miss Linton s'écria aussitôt que sa santé était excellente et que c'était seulement la dureté de Catherine qui la rendait malheureuse. « Comment pouvez-vous dire que je suis dure, méchante enfant ?» Je reprends. « Comment pouvez-vous dire que je suis dure, méchante enfant gâtée ?» s'écria ma maîtresse, stupéfaite de cette assertion déraisonnable. « Vous perdez sûrement la tête. Quand ai-je été dure, dites-moi ?»« Hier, » gémit Isabelle. « Et maintenant ?»« Hier ? À quel propos ?»« Pendant votre promenade dans la lande, vous m'avez dit d'aller où je voudrais pendant que vous flâniez avec M. Heathcliff. » Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, que nous retrouverons la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.